Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Corinne.
Aujourd'hui, un peu d'aventure au menu d'Asialogie. On en a souvent de l'aventure,
mais là,
un peu plus.
D'accord.
On retourne à Hong Kong.
Oui.
Mais dans son histoire parallèle cette fois, dans l'ancien repère de pirates rétrocédé à la Chine en 1997.
D'accord.
Et en deuxième partie, Didier, toi tu vas nous parler des Tamagotchi.
On va être un peu régressif.
Ouais. Ah, qui sont, d'après ce que tu m'as dit, toujours mignons et de plus en plus perfectionnés.
Ah forcément, oui. Donc du coup, par contre, on va commencer par Hong Kong, cette fameuse histoire parallèle que tu nous as vendue là, avec ce repère de pirates. On est à quelle époque, Corinne, là ?
Alors, c'était bien avant l'arrivée des Anglais. Hein. La piraterie et la contrebande sont indissociables de l'histoire de cette zone de la mer de Chine. Ça a duré longtemps.
Ouais.
Et il y a de quoi stimuler notre imagination.
J'imagine.
Cette région a toujours été stratégique en raison de sa situation géographique, de ses ports naturels, avec ses 234 îles et son rôle de carrefour commercial.
D'accord.
Donc, 234 îles, ça veut dire...
Beaucoup de cachettes.
Beaucoup de cachettes.
Ouais, parce que moi,
beaucoup de cachettes.
Tu parlais de
pirates. C'est un petit territoire.
Oui, quand on parlait de pirates, je pensais Caraïbes, quoi. Et là, je suis un peu surpris avec la mer de Chine.
Il y avait des sacrés pirates.
Mais
tu
je
vas
vois
voir.
Que finalement, c'était assez propice avec toutes ces îles pour se cacher.
Alors voilà. Alors jusqu'à la dynastie Ming du 14e siècle au 17e siècle, la dynastie Ming, Hong Kong était un simple village côtier, petit port tranquille. Mais sous les Qing, la dernière dynastie, la piraterie s'est développée. Et pour y remédier, un des empereurs de cette dynastie, l'empereur Kangxi, va imposer une politique de la terre brûlée. Il va faire vider toute la côte sud de la Chine de ses habitants.
Oh bah voilà, ça réglait le problème, mais ça ne l'a pas réglé
pour longtemps, on imagine bien. Donc Hong Kong a été déserté pendant quelques temps, mais petit à petit, les pirates sont revenus.
D'accord, du coup, ces pirates de la mer de Chine, est-ce que tu peux m'en dire un tout petit peu plus, s'il te plaît ?
Oui, alors... Quel genre, en fait, c'était des Chinois. Hein.
Oui, c'était... ils trafiquaient quoi ?
D'abord, ils étaient nombreux, ces pirates. Ouais. Ils s'organisaient souvent en véritable confédération.
Ouais.
Et ils terrorisaient les côtes du Guangdong, la région de Canton. C'est la région qui est voisine de Hong Kong.
Ouais.
Et pour illustrer cette époque d'aventure, moi, je préfère vous raconter l'histoire, une petite histoire, mais une histoire vraie. La petite histoire dans la grande histoire.
D'accord.
C'est l'histoire de Zheng Yi et de Xing Shi, le plus célèbre couple de pirates du sud de la Chine.
Ah, c'est un couple en plus.
C'est un couple. D'accord. Et c'est une histoire qui s'est passée au début du 19e siècle, donc presque contemporain, je dirais. Et Zheng Yi était fils de pirate et pirate célèbre lui-même, connu pour avoir uni plusieurs flottes pirates en une immense coalition appelée la Confédération des Drapeaux Rouges.
Ah, là, déjà, je le vois flotter, ça
oui,
fait
hein. On imagine bien.
Ah, on y est.
Et la Confédération des Drapeaux Rouges, c'était une sorte d'empire pirate qui dominait les mers du sud.
Ouais,
du sud de la Chine, bien sûr.
Ouais, bien sûr.
Alors, en 1801, Zheng Yi va épouser Qing Shi, une ancienne prostituée qu'il avait rencontrée dans un bordel de Canton.
On est au cinéma, là.
Et Zheng Yi va mourir en 1807, donc le mari, lors d'une tempête. Et Qing Yi prendra le contrôle de toute la flotte, ce qui fera d'elle... celle qu'on appelle la reine des mers du Sud.
Ah,
c'est elle, la reine
la
des mers du Sud.
Je la vois bien devant le drapeau rouge qui flotte. Là.
On l'imagine jolie, courageuse.
Voilà, c'est ça.
Et c'était elle, la reine des mers du Sud. C'est son titre. Et c'est donc l'une des femmes pirates les plus célèbres et redoutées de l'histoire. Elle avait quand même sous ses ordres plus de 70 000 pirates et plusieurs centaines de jonques.
Ça plaisantait pas.
Et ça Confédération attaquait les navires marchands, extorquait et taxait les villages côtiers. Très sympathique.
Ce que tu viens de me décrire, on est vraiment dans un film d'aventure. On imagine l'ambiance, les paysages.
Oui, c'est une histoire vraie.
Ah ouais.
Moi, c'est ça que je trouve terrible.
Allez, allons plus loin encore.
Alors oui, ça fait que moi, je trouve que ça fait rêver les histoires de pirates. Ouais. Et donc, c'est avec l'aide de son lieutenant et fils adoptif, qu'elle épousera d'ailleurs plus tard, que Ching Shi va maintenir la puissance de sa flotte encore quelques années. Avant de prendre sa retraite, après avoir négocié une reddition avantageuse auprès du gouvernement des Qing en 1810.
D'accord.
Hein, et son navire de commandement s'appelait le Dragon Pourpre.
Ah, vraiment, tout y est. D'accord.
Ah ben oui, on imagine vraiment. Hein. Okay. Alors, Ching Shi est devenue une légende positive, car elle avait un code d'honneur. Hein. Quiconque violait ou pillait sans autorisation était exécuté.
D'accord.
Elle avait même établi un système de pension pour les familles de ces pirates morts au combat.
Hein,
et les pêcheurs disaient aussi qu'à son passage, les vagues s'apaisaient, comme soumises à une puissance mystique.
Ah ouais, voilà, on est dedans.
Hein, c'est la reine des mers du Sud,
là,
quand même.
Clairement,
hein.
Clairement.
Alors, son personnage a bien sûr inspiré de nombreux écrivains, des mangaka, des réalisateurs. Et le personnage de Mistress Ching dans Pirates des Caraïbes 3 en est un exemple.
D'accord.
Et il y a aussi une superbe BD qui date de 2015 qu'on a dû, qu'on peut trouver.
C'est pas facile.
Mais c'est pas si simple. Hein, c'est Shi Tzu, Reine des Pirates, une BD en 4 volumes, magnifique, vraiment.
Joli, ouais.
Voilà.
Très beau dessin.
Pour l'histoire de. C'est très très beau cette BD.
Là, on était avant et on arrive à l'époque coloniale britannique.
Tout
et
à
la,
fait.
La piraterie, elle existe encore, elle va évoluer. Comment ça se passe, ça
va continuer.
C'est ça.
Et puis c'est la guerre de l'opium.
Et
alors
voilà.
Le petit rappel, au début du 19e siècle, la Chine était très fermée au commerce occidental et les Britanniques voulaient acheter du thé, de la soie, de la porcelaine. Mais ils n'avaient que l'opium à vendre pour équilibrer leur commerce.
D'accord.
On est encore un peu dans l'actualité, là.
C'est ça.
Ce qui ne plaisait pas du tout au gouvernement chinois.
On peut comprendre.
Qui va interdire le commerce de l'opium et il va détruire les cargaisons britanniques. Et c'est ce qui va déclencher une guerre que les Britanniques vont gagner.
Bien sûr.
Et Hong Kong, c'est là que Hong Kong sera cédé par les Chinois aux Anglais en 1842. Ça, on l'avait déjà évoqué, mais c'est important d'y revenir, je pense. Et donc, les pirates deviendront petit à petit des contrebandiers et vendeurs de drogue à la Chine.
Ouais.
Puis, pour de nouvelles formes de contrebande après la Seconde Guerre mondiale et la Révolution de 1949.
Ah oui.
Hong Kong deviendra alors une porte d'entrée pour des biens de consommation et toutes sortes de marchandises illégales destinées à la Chine communiste.
Oui.
Voilà. Et c'est à cette époque qu'apparaîtront les triades et le crime organisé dans le trafic de produits de luxe et aussi d'êtres humains. Ça, c'est
forcément, comme d'habitude. Quoi.
Ça, c'est horrible.
Oui.
Et avant la suite de l'histoire de Hong Kong, on va retourner dans la grande histoire.
Oui.
Je vous propose d'écouter une chanson emblématique du mouvement de contestation des parapluies.
D'accord.
Que je vais vous raconter après.
Okay.
Et c'est Beyond. Et la chanson s'appelle Boundless Oceans, Vast Skies.
Ok, on écoute alors. Alors, vous êtes toujours sur Radio Alpa, 107.3, avec Asiologie. Corinne.
Oui.
Donc, les pirates, on a vu ça. J'imagine qu'avec quand même la rétrocession de Hong Kong à la Chine, le trafic a dû diminuer. Enfin, ça a dû évoluer.
Oui, bien sûr, ça a diminué avec le renforcement des contrôles douaniers et des efforts conjoints des autorités chinoises et hongkongaises.
D'accord.
Elles avaient tout la Chine comme le territoire hongkongais. Avait intérêt à ce que tout se termine.
Bien sûr.
Alors, on arrive à l'époque de la rétrocession, là, Didier,
oui.
Au moment où Margaret Thatcher et Deng Xiaoping vont signer, en 1984, l'accord où le Royaume-Uni acceptait de rendre l'ensemble des territoires de Hong Kong et où la Chine promettait d'en respecter l'autonomie pendant 50 ans,
oui.
Jusqu'en 2047,
voilà.
Selon le principe de « un pays, deux systèmes
oui. ».
C'était le 1er juillet 1997
D'accord.
que Hong Kong est redevenue chinoise.
Mm-hmm.
Je dis bien redevenue.
Oui, oui, bien sûr.
Parce que c'est la guerre de l'opium qui avait fait que.
Tout à fait.
Et ça s'est passé un jour de pluie, hein, lors d'une cérémonie en présence du prince Charles et du président chinois de l'époque, Jiang Zemin.
D'accord. Et alors, cette transition, elle s'est passée comment? Il y a eu beaucoup de changements, je suppose. Enfin, je pose la question, mais j'ai un peu la réponse depuis 97.
Bah, il faut savoir qu'un peu avant 97, de nombreux Hongkongais s'étaient déjà procurés des passeports britanniques
oui.
et avaient émigré au Canada, en Australie et au Royaume-Uni, car ils craignaient une répression chinoise.
On peut les comprendre.
Mais il n'y a pas eu au début de répression chinoise.
Mm-hmm.
Hein, elle est venue beaucoup plus tard.
Oui.
Au début, rien n'a changé. Tout se passait plutôt bien.
D'accord.
Et c'est en septembre 2014 que les choses ont commencé à se gâter vraiment lors de la révolution des parapluies dont on a écouté bah, une des chansons
voilà,
emblématiques, hein, c'était lors d'un rassemblement. Les bruits qu'on entend autour,
c'était
le rassemblement.
Réagit,
oui,
sûr.
Oui, oui.
D'accord.
Et c'était une des chansons emblématiques du mouvement
okay.
des parapluies. Donc un grand mouvement de contestation pacifique pour plus de démocratie.
Alors, donc plus de démocratie, mais pourquoi les gens ont manifesté? Qu'est-ce qu'ils réclamaient en fait?
Oui, parce que tout se passait bien jusque-là. Alors le gouvernement chinois avait annoncé que des élections seraient organisées pour choisir le chef du gouvernement de Hong Kong.
D'accord.
Mais aussi, et c'est là que les choses se sont
c'est
gâtées,
d'accord.
qu'il choisirait tous les candidats. Alors, les Hongkongais ont donc réclamé de vraies élections démocratiques avec le droit de choisir librement leurs candidats.
Des élections, quoi.
des élections,
voilà.
C'est ça.
Okay.
Alors, le mouvement a commencé par des grèves étudiantes et
oui.
puis des centaines de milliers de Hongkongais sont descendus dans les rues.
Oui.
Et les autorités ont envoyé la police anti-émeute, utilisé les gaz lacrymogènes, etc.
Bien sûr.
Ce qui a encore renforcé la mobilisation,
mm-hmm.
mais le gouvernement n'a pas cédé.
Oui, c'est pas le genre. D'accord.
Alors, c'est pour cela que le parapluie est devenu un symbole de résistance. Hein. Les parapluies servaient à se protéger contre les gaz lacrymogènes et les jets de poivre des forces de l'ordre,
D'accord.
de l'eau aussi.
Oui, bien sûr.
Et en 2019, bah, y a eu aussi d'autres manifestations monstres hein, suite à la loi sur l'extradition des prisonniers hongkongais vers la Chine,
oui.
des prisonniers politiques.
Bien sûr.
Et ce qui a entraîné en 2020 la promulgation d'une nouvelle loi sur la sécurité nationale, mettant fin au modèle un pays, deux systèmes.
Eh oui, forcément. Alors, du coup...
Voilà, donc c'est depuis 2014
ouais,
que les choses se sont
dégradées. Oui. Mm. Donc là, tu parlais de 2020. Qu'en est-il aujourd'hui, là, 5 ans après?
Alors, depuis 2020, bah, encore de nombreux Hongkongais ont émigré vers le Royaume-Uni. Hein.
Oui.
Il y a toujours des tensions politiques. Mais économiquement, Hong Kong reste une réussite. Hein. Le salaire moyen annuel y est de 46 000 euros par an, hein, 37 000 euros en France.
Ouais, tout de même.
Bon, le coût de la vie est plus élevée hein,
ouais.
quand même à Hong Kong. Il y a des gens très pauvres, il y a des gens très riches,
c'est ça.
Mais il y a une réelle qualité de vie, malgré le prix de l'immobilier qui est parmi l'un des plus élevés du monde.
D'accord.
C'est quand même... c'est pas la misère là-bas.
Okay.
Alors Hong Kong, il y a de la misère, mais... Comment dirais-je? Elle est bien cachée, sûrement.
Sûrement, oui.
Mais il est très facile d'avoir du travail et de pouvoir évoluer, on va dire. Alors, Hong Kong est toujours la troisième plus grande place financière du monde, après
ouais.
New York et Londres,
D'accord.
quand même.
Ouais, bien sûr.
Et le port de Hong Kong, l'un des plus actifs en commerce international. Alors, beaucoup d'entreprises s'installent là-bas, toujours. Pas de TVA, pas pas d'impôt sur la fortune et un impôt sur le revenu plafonné à 15%.
Ah, forcément.
c'est attractif. Hein. Alors, c'est un endroit qui est vraiment unique dans son fonctionnement, dans sa géographie, dans son histoire. Fascinant, hein, qui est entre tradition et modernité. D'accord. Très ancré dans la culture britannique encore, mais aussi dans la culture chinoise avec les vieux temples.
Oui.
Et bah, y a des centres commerciaux ultra modernes et la nature. Bien. Il y a toujours sa place, malgré les apparences.
Oui, c'est ça.
Voilà, il y a beaucoup à voir et à faire, et bah, c'est peut-être le moment d'y aller.
D'accord.
Alors, il y a une petite anecdote, toute petite. Hein, Hong Kong est la seule ville d'Asie à avoir conservé son tramway à impérial depuis 1904.
D'accord.
On peut toujours y monter pour moins d'un euro, parce que oui, on mange pour pas cher et on se déplace pour quasiment rien.
D'accord. Alors, du coup, aujourd'hui, ok, et demain, alors, une idée ?
Bah Didier, c'est simple, hein, son avenir, c'est pas compliqué, ça reste incertain.
Bien sûr.
Avec l'échéance de 2047,
bah voilà.
C'est pas tout de suite, mais
quand même.
Quand le statut spécial prendra officiellement fin, on verra.
Bah, vous verrez, à la saison 32 de Asialogie, on en reparlera, quoi.
Là, la saison 32.
32, 33, j'ai pas compté, mais de nombreuses saisons après celle-ci, quoi.
Oui, on en reparlera. On aimerait bien en reparler, en tout cas.
On verra.
On aimerait bien.
Je fais pas de promesses.
Bon, je sais que tu nous as fait une surprise, Didier. La pause musicale, c'est Dazé, des Japonais, qui chantent une chanson qui s'appelle...
Ah.
Tamagotchi.
Forcément.
Ça date des années 90.
Ah bah là, je pense que vous allez pouvoir voir tout de suite que ça date bien des années 90. I'm your Tamagotchi, so happy that you love me and we should be together forever and forever. Cause I'm your Tamagotchi, I need you to protect me so that in the night.
C'était Tamagotchi, ça ne pouvait être que dans Asialogie sur Radio Alpa 107.3. Ah oui, je suis sûre qu'on est la seule radio à avoir passé cette chanson-là.
Je pense que oui, en termes de droits, ils n'ont pas dû toucher beaucoup plus que nous. et on revient quand même à l'été 98.
98. Et oui, mais ça fait du bien de temps en temps de se replonger dans son enfance, son adolescence.
C'est du peps en bas.
C'est du peps, voilà. Alors Didier, bien avant les jeux sur smartphone, on avait un super jeu déjà, avec un seul objectif, empêcher un œuf pixelisé de mourir. Et ce jeu a causé bien des drames.
Sûrement, oui.
Souvenons-nous de nos Tamagotchi, Didier, raconte-nous tout.
Oui, c'était tout un univers. Hein. On n'avait pas besoin de Wi-Fi ni de téléphone. Dans les années 90, le jeu préféré, c'était un petit objet digital ovale qui bipait dans les cartables, comme vous aurez entendu au début de la chanson, ou dans une poche, et qui nous a appris la patience, le sens des responsabilités, aussi la culpabilité et le chagrin.
Oui, c'était horrible.
Hein, attention, les Tamagotchi ont été créés par la société Bandai, ça on la connaît bien quand même, le troisième plus grand producteur de jouets du monde. Le tout premier Tamagotchi a été lancé le 23 novembre 1996 au Japon. Depuis le début 97, dans le reste du monde.
D'accord. Alors, quelles sont ses origines ? Pour qui ? Et pourquoi ils ont été créés, les Tamagotchi ? C'est venu comment, ça ?
Alors, à l'origine...
Parce que c'était complètement révolutionnaire.
Oui, quand même, c'était une idée étonnante.
Bah oui.
À l'origine, Aiki Maeta, son créateur, voulait créer un animal de compagnie virtuel portable pour les enfants et les adultes qui ne pouvaient pas avoir un vrai animal à cause de leur mode de vie en ville. Ça, on l'a déjà un peu évoqué.
Oui.
Dans la même idée, en fait, que les pierres de compagnie dont on a
parlé
dans la saison 1 d'Asialogie. Alors, le nom Tamagotchi vient d'un mélange de mots japonais tamago, qui signifie œuf, et watchi, mot qui vient de l'anglais watch, avec une prononciation à la japonaise.
Ah, d'accord. Tamagotchi.
Donc, en fait,
oui, il doit dire tamagotchi.
Tamagotchi veut dire œuf à porter sur soi et regarder souvent.
D'accord.
Alors, quand il est sorti au Japon en novembre 1996, tout le monde s'est précipité dessus parce qu'un petit être virtuel que tu devais nourrir, laver, soigner, oh, éduquer et qui pouvait même mourir hein, si on s'en occupait mal, c'était complètement
mais
nouveau.
Oui, c'était
fait.
Complètement nouveau. On n'avait jamais vu
c'est
ça.
C'est ça.
Et à part les pierres de compagnie, mais
oui, voilà.
Là, ça bipait pas dans le cartable, les pierres
c'est
de compagnie.
Ça.
Alors, les Tamagotchi ont tout de suite eu du succès.
Oui. Bandai ne l'avait pas prévu, en fait. Il y a eu une pénurie car les magasins ont été dévalisés. Et quand les Tamagotchi sont arrivés aux USA et puis en Europe en 97, c'était exactement la même folie. Plus de 40 millions de Tamagotchi ont été vendus en moins de 3 ans. Hein, ça en fait, quand même.
Oui, pour l'époque, oui, sûrement.
Et
oui.
Alors, en 2023, on en comptait plus de 91 millions dans le monde, quand même. Attention, hein. Les cours de récré ont été tellement envahis au début que certaines écoles les ont interdits car les élèves les surveillaient tout le temps et ils n'écoutaient plus en classe. Quoi. Ils étaient absorbés totalement.
Mais oui, mais c'était stressant.
Voilà.
C'était stressant, Tamagotchi.
Eh oui.
Alors, pourquoi tant de succès, Didier ?
Le Tamagotchi
qu'est-ce
a répondu
nous,
à un
qu'est-ce
besoin.
Qu'est-ce qui nous a plu ? Qu'est-ce qui a plu ?
Le petit besoin affectif, émotionnel, important, non seulement pour les enfants, mais aussi les adultes. Hein. Ils y sont allés sans prendre soin quelque chose au quotidien. Voilà. Le sentiment de la responsabilité a correspondu aux attentes inconscientes d'un public. Quoi. Le Tamagotchi donnait l'occasion d'avoir quelque chose à protéger et de ressentir la fierté de s'en occuper, d'un être vivant virtuel, mais émotionnellement réel. Il était la solution idéale pour combler un manque. En fait, voilà.
Et oui, on a beaucoup de manques.
C'est ça. Il était aussi, pour les timides, un moyen de communiquer avec les camarades pendant la récréation. Chacun sortait son Tamagotchi et changeait des conseils. Enfin, c'était viral, de toute façon. Voilà, il y a eu une fonction intéressante pour les enfants. C'était les premiers jouets où l'échec existait. Là, par contre. Et de ce côté-là, ça apprenait donc aux enfants la notion de fragilité, celle de la vie et de la mort, tout de même, mais aussi les conséquences de leurs actions. Et pour cela, et pour ceux qui en ont possédé un, il reste un souvenir fort des années 90, les Tamagotchi. Alors moi, je devais être trop adulte et plus assez enfant, je suis passé à côté et mes enfants étaient trop petits, mais j'ai un souvenir quand même de ce
phénomène. Ah bah moi j'ai un souvenir parce que j'ai pris soin des Tamagotchi.
C'est ça.
Ceux de mes neveux, voilà.
C'est ça.
Je sais ce que c'est. Je sais combien c'est même stressant quand on te confie un Tamagotchi
c'est
et t'as pas intérêt à le faire crever.
Et oui, mais c'est comme le chat de la voisine, quoi. Qu'est-ce que
c'est quasiment ça.
Voilà. Alors.
C'était quasiment ça.
Oui.
Alors, à quoi ressemblaient les premiers Tamagotchi, Didier ? Comment on jouait avec ?
Alors, c'était un petit boîtier en forme d'œuf, de la taille d'un porte-clés, avec un tout petit écran LCD en noir et blanc. Il y avait 3 boutons qui permettaient de naviguer sur les menus pour les nourrir, les jouer avec, nettoyer ou gronder le Tamagotchi.
C'est drôle,
quand
même.
Il y avait un graphisme. Alors, c'était simple, hein, mais très mignon. Chaque appareil contenait un seul personnage virtuel qui évoluait différemment selon la qualité des soins reçus. Il pouvait devenir de plus en plus mignon ou désagréable, sportif ou paresseux. Certains Tamagotchi pouvaient même devenir de véritables monstres si on les négligeait. Et comme un reflet en fait, de l'éducation des enfants, tout simplement. Quoi.
C'est quand même bien vu, moi, je trouve.
Oui.
Alors, est-ce que tu peux nous raconter des petits trucs, des anecdotes sur les Tamagotchi?
Oui,
est-ce que tu en as trouvé?
Beaucoup organisaient des compétitions pour voir qui élevait le plus longtemps son Tamagotchi sans qu'il meure. Et certains enfants se réveillent même là en pleine nuit pour leur donner à manger ou les nettoyer. Il existait même des sites de cimetières de Tamagotchi sur Internet pour aider les enfants à faire leur deuil.
Mais oui, parce que c'est pas évident.
Oui,
moi, j'ai connu des enfants très affectés.
Je veux bien croire. Il y a même des cas décrits d'enfants qui ont enterré leur Tamagotchi dans leur jardin comme s'il s'agissait d'un animal de compagnie. Comme quoi, on a toujours besoin de ritualiser la perte de quelque chose ou de quelqu'un qu'on aime, en fait. On peut aussi dire que le Tamagotchi, qu'il a anticipé l'ère des notifications.
Ah oui.
Et oui, des expériences interactives, l'addiction numérique, et qui est le revers, bien sûr, de la médaille avec le Tamagotchi.
Ah oui, c'était des notifications, c'est exactement
c'est
ça,
c'est
le
un peu
bip-bip
ça, ouais.
Du
attention,
Tamagotchi.
Attention, j'ai faim, voilà, ou machin, un truc.
Bah oui, il y a un truc qui se passe.
C'est ça.
Alors, comment ils ont évolué, les Tamagotchi, Didier? Et puis, combien ça coûte?
Alors, il y a eu de nombreux modèles, bien sûr, vous imaginez bien, depuis les années 2000. Il y a ceux avec une connexion infrarouge pour que deux Tamagotchi puissent se rencontrer et faire des amis ou même se reproduire.
Ah oui, alors ça, j'ai pas connu, par contre. J'aimerais bien aimer.
Alors, puis, il y a eu ceux de la famille Tamagotchi avec plusieurs générations sur un seul appareil.
Là, ah oui,
carrément, c'est l'arbre généalogique des Tamagotchi.
Une fois qu'ils sont reproduits, c'est une famille.
Parallèlement, le design est devenu de plus en plus coloré, le jeu plus compliqué, forcément, la technologie a évolué. Oui. Le tout d'avant avec plus sophistiqué, avec des mini-jeux inclus. Enfin, il a perdu petit à petit son attrait, mais avec sa transition numérique en 2010 et les applications pour smartphone, en fait, il a retrouvé de nombreux adeptes. En fait, il a migré comme ça. Et encore plus depuis la création de Tamagotchi Smart en 2019.
Ah.
Une montre Tamagotchi connectée. Et en 2026, on va fêter ses 40 ans.
Il faut qu'on y pense hein, pour lui souhaiter son anniversaire. Ça,
exactement.
Qu'on
Alors, pour les prix.
Oui, combien ça coûte?
On trouve à moins de 15 euros, j'ai regardé, aujourd'hui, sur des grands sites américains où je ne vais pas. En fait, on trouve à peu près à ce prix-là. C'est mine de rien, 15 balles, je trouve ça un petit peu cher, mais pour les tout petits trucs comme on avait à l'époque, avec le petit graphisme de l'époque. Mais les Tamagotchi rares peuvent parfois valoir plus de 2000 euros. Hein, le prix de la montre, pareil, on en trouve d'occasion pour moins de 20 euros, mais... faut compter plutôt entre 50 et 100 euros.
Oui, c'est encore accessible.
Voilà, mais ça m'a surpris, j'ai cherché un peu sur Internet, on en trouve encore assez facilement. Je ne pensais pas que le phénomène était encore si important.
Bon, Didier, c'est fini.
Eh oui.
Les amis, on se retrouve la semaine prochaine,
c'est
jeudi prochain à 12h, samedi matin 9h30, sur Radio Alpa 107.3. On vous souhaite une très bonne semaine, on vous retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir, comme toujours.
Bien sûr. À bientôt. Bonne semaine. Thank you.